Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est présent que ça soit toujours dans le même sens. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce qu'on va délirer, hein. Enfin, nous. Vous, peut-être aussi, on verra à la fin. C'est un appel au délire qui ne va pas nous laisser indifférents. On nous indique la voie à suivre, je cite. Parfois, ce sont les récits les plus fous, les moins cohérents, qui nous parlent le mieux de nos aspirations et de nos rêves pour une réalité meilleure. Ma foi, sans doute, sans doute. Mais c'est peut-être aussi des voies vers des réalités moins sympathiques, vers des imaginaires où le délire n'a pas toujours des couleurs très attirantes. Que vont en penser les auteurs réunis autour de cette table? L'ICAM, d'abord, qui lève la main, c'est elle, qui a dû sans doute se faire la même réflexion quand, après des ouvrages de fantastique, elle s'est lancée elle-même dans l'écriture de science-fiction avec Azulon, qui vient de paraître chez Griffe d'encre. Et elle nous en parlera. Jacques Barbéry, lui, au contraire, habite la SF depuis quelque temps, accompagné de ses insectes. C'est un entomologiste distingué, entre autres choses. Il faut lire Cosmos Factory, qui est sorti à la Volte. C'est un genre bien différent que décrit Jean-Laurent Del Socorro, puisque Royaume du vent et de colère, qui vient de sortir chez ActuSF, est un roman historique qui se passe au début du règne d'Henri IV, mais où se pratique une sorte de magie qui n'est pas sans évoquer parfois la radioactivité. Alors les amateurs de science-fiction seront comblés, mais les amateurs de romans en général seront comblés aussi. Et je crois savoir qu'il s'est déjà frotté à la SF avec La mer des mondes, qui est une nouvelle, si je ne me trompe pas. François Bouc est excusé, comme vous le savez. Et enfin, Johan, qui vient de surgir du néant, qui ne nous a rien dit et qui va se présenter donc lui-même.
Moi, je m'appelle Johan, j'ai vu de la lumière, je me suis dit que ça allait être sympathique de participer à cette table ronde. Je suis le dessinateur d'une série qui s'appelle Spirou et Fantasio, et puis avant ça, quelques albums chez quelques éditeurs divers, Delcourt, Dargo, Fluide Glacial, enfin bref. Je suis auteur de bande dessinée.
Très bien. Alors voilà, il pourra nous parler du délire en bande dessinée. Je ne sais pas si Spirou et Fantasio ont beaucoup déliré, mais pourquoi pas. Si, dit-il. Délirons. C'est un peu difficile de délirer sur commande. C'est Hugo Balagamba qui nous a dit, allez, délirez. Délirons, ça ne va pas être simple. Peut-être va-t-on choisir quelques exemples de ce que je crois avoir trouvé, moi, comme des ouvrages délirants. Par exemple, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle L'abominable ver télépathe. Comme ver de terre. Hein. Le ver télépathe. C'est un livre de Pierce Anthony et Robert Markgroff, qui doit dater des années 70. Et il y a aussi, Le guide du retard galactique, qui, dans son genre, est assez délirant. Mais au cinéma, à quoi peut-on penser? Par exemple, à Mars Attack, qui est aussi, d'une certaine manière, un film sur le délire martien. Et c'est connu plutôt comme un film. Voilà. Alors, qu'en pensent les auteurs ici réunis? Ils m'ont l'air vachement pas prêts à délirer. Là, je crois qu'ils se marraient plutôt prêts à faire la sieste. Allez, l'ICAM qui se saisit de son micro et qui va sans doute nous dire quelque chose.
C'est sûr que pendant la sieste, c'est un peu difficile de délirer. Si on prend l'exemple de Mars Attack, c'est une façon de délirer qui reste quand même assez encadrée, puisque c'est une adaptation de quelque chose qui n'était pas du tout délirant. Tim Burton y a ajouté son délire personnel. Et c'est vrai que délirer dans un cadre, c'est une façon un peu compliquée de délirer. Moi, en ce qui me concerne, quand j'écris, comme je viens d'aborder la science-fiction et que j'ai une formation scientifique, je connais le problème, puisque la difficulté, c'est d'oublier en fait tout ce qu'on sait pour pouvoir délirer librement. Pratiquer un peu l'ardoise magique, c'est-à-dire s'émanciper de toutes les connaissances pour avoir des idées nouvelles, pour se surprendre et s'amuser.
Oui, en fait, à propos d'exemples de ce qui est délirant ou pas, je crois que dans les années 60-70, l'ASF, d'une manière générale, était quand même très délirante. Quand on prend des auteurs comme Laferty, Shakley, même Dick, Tiptree, James Tiptree, John Sladek, Bon, enfin, il y en avait tout un tas. Je crois que l'ASF, d'une manière générale, dans les années 60, était un petit peu le reflet, peut-être justement, des fameuses 60s, quoi, de la contre-culture, etc., était très délirante. Et je crois qu'elle s'est, au fil du temps, un petit peu calmée. Mais je pense qu'elle est vraiment intéressante quand elle se lâche, puisque l'ASF, c'est la littérature, bon, ben, de tous les possibles. Donc, allons-y, franco, quoi, profitons-en. Et je pense que les auteurs, à cette époque-là, ont profité vraiment à fond. Alors, est-ce qu'ils décryptaient le réel? Bon, ça, parce que je crois que c'est l'intitulé
oui,
de...
Oui, hélas, oui.
Oui, je pense que plus... Oui, je pense qu'en manipulant les extrêmes, les fantasmes, jusque à une certaine limite, oui, on peut plus facilement décrypter le réel, entre guillemets, c'est-à-dire aussi l'illusion, en fait, qu'en restant dans un cadre, justement, très, très, très délimité, très stabilisé, avec des repères et des fondamentaux très, très, très cadrés. Donc, oui, enfin, moi, j'ai connu l'ASF à cette époque-là, donc j'ai biberonné tous ces auteurs. Je pense que ça se ressent dans ce que j'écris aujourd'hui, quoi. Si j'écris de l'ASF, c'est pour pouvoir, justement, ne m'imposer aucune limite. Donc délirer en fait, mais délirer dans un sens, pas je vais écrire n'importe quoi avec une certaine structure, mais aucune limite, aucune contrainte.
Mais est-ce qu'il faut remonter jusqu'à, jusqu'à par exemple Lovecraft, qui délirait pas mal
oui,
aussi.
Oui, Lovecraft est un auteur totalement délirant, oui. Et un auteur très intéressant.
Et oui, en plus c'est un grand, un grand ancien.
C'est un grand ancien.
C'est un grand ancien, oui. Pardon, tout à fait. Je l'ai raté celle-là. Jean-Laurent.
C'est intéressant ce que dit Jacques Barbery. Je pense qu'aujourd'hui, on délire moins en SF qu'on l'a fait à une époque. Et ça, c'est très intéressant comme remarque, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on écrit de la SF, au contraire, on essaie de se dire on veut être pris au sérieux, donc on ne délire pas dessus. Donc ça, c'est intéressant de se dire, parce que pareil, j'ai cherché des exemples, moi. Et c'est vrai que c'est plus dans les années 70-80, que ce soit en littérature ou au cinéma. Moi, je pense à Brasil, par exemple, de Terry Gilliam. Là, on est sur un propos intéressant, parce qu'il y a des choses totalement délirantes, avec des scènes complètement folles, si vous connaissez ce film. Et là, il interroge réellement le réel, parce qu'il parle de la réalité des gens et d'une société donnée qui nous interroge, nous. Donc il y a aussi, hormis le fait que c'est vrai que c'est aujourd'hui, on délire peut-être moins en SF qu'à une époque. Il y a aussi deux autres choses. Il y a du délire pour le délire, voilà, pour se lâcher. Et le fameux thème de la conférence, il y a le délire qui n'est qu'un propos finalement pour dénoncer ou souligner un problème de notre société, présent ou à venir. Donc il y a peut-être ces deux dimensions-là à séparer aussi, je pense.
Oui, Jacques.
Oui, non, juste un petit plus. Parce que le cinéma, justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma et peut-être même tout récemment, les séries télé... se permettent presque plus de liberté et de délire que la littérature, parfois. J'ai l'impression que c'est un secteur dans lequel, aujourd'hui, on se lâche un tout petit peu plus. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'on est à l'ère de l'image, j'en sais rien, mais en tout cas, ça foisonne un petit peu plus, me semble-t-il, quoi.
Icam ?
Je pense aussi qu'il y a l'accumulation de connaissances scientifiques. Dans les années 60-70, on pouvait délirer. Parce qu'on avait encore des champs, on a toujours des champs très importants de découverte, mais maintenant, il y a des choses qui sont bien définies. On pense savoir certaines choses, on pense, hein, parce que dans les sciences, on est sans arrêt en train de tout remettre en question. Mais en tant que moi, par exemple, j'ai commencé par le fantastique, alors que j'ai une formation scientifique assez poussée, parce que je ne me sentais pas d'aller me confronter à la science-fiction, de peur de, d'être emprisonnée par tout ce que je sais.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est une...
Alors que dans le fantastique, on est complètement libre.
Oui,
Le réalisme scientifique, on peut le mettre de côté.
Mais qu'est-ce qui a permis de dépasser la peur en question, alors, finalement ?
Les univers virtuels.
Ah oui, d'accord. Donc,
c'est une façon de...
Une sorte de délire, d'une
voilà.
certaine manière.
Ouais. Oui,
d'accord. Johan ?
Moi, je vais parler un petit peu pour le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire la bande dessinée.
J'allais en parler. Alors, vas-y.
Parce qu'on parle de cinéma qui se permet, en effet, peut-être dans certaines expressions actuelles, d'aller loin sur des choses. Mais le cinéma demande beaucoup de moyens. C'est très lent à mettre en place, etc. Même si maintenant, on a quand même un afflux de je pense à des séries, par exemple, des séries télé ou des films ou des choses comme ça, bien entendu. Mais pour le coup, je pense forcément à la bande dessinée, puisque c'est bien avant ça, la manière la manière la plus économique de créer des univers, de créer du délire et de parler aussi du réel à travers ce média. Je parle là de domaine pictural, hein. Je parle pas seulement du roman, bien sûr, le roman est là très très présent, mais pour le coup, on a de l'image, on a de l'évocation visuelle. Je pense à Barbarella, par exemple, dans les années 60, où là, on est dans un espèce de délire psychédélique où le lien avec le réel, pour le coup, est beaucoup plus ténu, si ce n'est à travers des narcotiques, éventuellement. Oui, c'est ça. Ou des stupéfiants, peu importe. Mais je pense aussi à des œuvres assez fondatrices comme L'Incal de Moebius et Jodorowsky, où là, pour le coup, on est certes sur un côté mystique de l'approche d'un récit, de la description d'un univers à ce niveau-là, avec à côté de ça une mise en scène et puis des inventions qui peuvent trouver des répercussions aujourd'hui. On a une vision de l'urbanisme, par exemple, qui est très intéressante, une vision des habitudes socioculturelles qu'on voit de plus en plus, que moi je vois se rapprocher un peu de cet univers de L'Incal, c'est-à-dire les gens devant leurs écrans, quoi qu'il arrive, à l'extérieur du monde, parce que c'est aussi avec des visières, voilà, c'est ça. C'est aussi une des choses qui seront très très fortement décrites dans L'Incal, c'est-à-dire que c'est grosso modo une espèce de guerre planétaire, hein, mondiale, planétaire, qui dépasse les limites de la Terre. Sauf que les gens la vivent devant leur télé, et ça me semble avoir beaucoup de répercussions sur ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais à l'époque, quand on lisait, c'était encore du délire. On pouvait pas imaginer que les gens puissent être à ce point esclaves ou connectés en permanence.
Dans le même esprit, je pense effectivement aussi à toute l'école de métal hurlant, où effectivement, oui. Druyer, par exemple,
Druyer, bien entendu.
Ça délirait abondamment. Oui, oui. Autre réminiscence de... Pourquoi je dis réminiscence ? Parce qu'effectivement... Oui, si je dis réminiscence parce que j'ai un peu l'impression que, comme tu le disais tout à l'heure, le délire est passé de mode, un petit peu, hein ? Vas-y.
Je rebondis sur ta référence de métal hurlant. C'est drôle parce que par exemple, il y a une série métal hurlant qui est ressortie il y a 2-3 ans. Il y a une deuxième saison, je crois, qui est parue. Donc, quand on fait une série un peu délirante, parce que c'est vrai, si vous avez l'occasion de voir la série Métal Hurlant, on est vraiment sur des approches, des visuels et des scénarios. Aujourd'hui, on ne le traiterait plus comme ça.
Et, c'est rétro.
Hein?
C'est rétro.
C'est rétro. C'est oui. Complètement rétro, mais c'est totalement délirant. Et ça parle réellement... du coup, ça interroge certaines choses sur nous, sur nos problématiques. Donc, quand on veut faire du délirant, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? On va rechercher des références de ces années-là pour les remettre au goût du jour. Donc, c'est drôle, en fait. Est-ce que peut-être on a du mal, aujourd'hui... peut-être qu'on est société plus drôle, en fait. On est triste, on veut plus délirer. Non, mais je pose réellement la question. Peut-être qu'on se prend peut-être trop au sérieux.
Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait aussi faire... se faire la même réflexion qu'à propos de la science-fiction en général, c'est se dire que le monde dans lequel on vit change très vite. D'une certaine manière, son changement est parfois un peu délirant parce qu'il nous prend à contre-pied, et qu'on en a, bien assez de délire dans la réalité pour aller en inventer du supplémentaire. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Lick ? Je vois que l'ICAM opine du bonnet.
Oui. Je pense qu'effectivement, on est tellement confronté à des changements, que ce soit technologiques ou des découvertes scientifiques, qui parfois flirtent avec le délire, parce qu'on pour les comprendre maintenant, pour arriver à comprendre ce qui sort des laboratoires, ce qui sort des laboratoires de recherche, quand on essaye de vulgariser, ben on a l'impression de délirer. Et puis, et nous, enfin, en tant qu'auteurs, confrontés au délire, on est tout le temps confrontés au délire. Enfin, de toute façon, prendre une plume et inventer une histoire, c'est déjà commencer un peu à quitter la réalité et à délirer, alors sur commande, je ne sais pas, comme vous en parliez au tout début. Mais c'est vrai que cette quantité de changements, cette quantité d'informations et de découvertes fait que quand on est confronté à l'écriture, on a peut-être envie de visiter un univers qui soit plus cohérent, plus avec des limites plus assez bien marquées. Ce qui sort, par exemple, en fantasy, on revient à la mythologie, des choses qui sont très, 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 très ancrées dans notre civilisation, dans notre culture.
Jacques ?
Oui, en fait, aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui font de la SF, en fait. Il y a tout un tas de théories sur les univers parallèles, sur les univers virtuels. Là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a un scientifique de la NASA qui est en train de bosser sur la possibilité qu'on vive dans un univers virtuel géré par des extraterrestres. Bon, ça, c'est présenté comme étant scientifique. Donc, oui. Alors là, je crois qu'en tant qu'auteur de SF, il faudrait pousser très loin le délire et le fantasme pour ne pas faire de la science, tout simplement, quoi. Mais de la fiction, de la fiction un peu plus délirante. Le problème est là, c'est que c'est vrai que le présent, aujourd'hui, c'est de la SF, en fait. Donc, voilà, il faut aller au-delà de ça. Donc, trouver peut-être de nouvelles perspectives littéraires, en fait, qui permettraient de distancer les scientifiques, quoi. Et ça, je crois que c'est par la littérature, en fait. Je crois, parce qu'on parle de science-fiction, et là, on est dans le contenu. Mais il y a aussi la partie... Ça marche toujours ? Il y a aussi la partie littéraire. Et là, je crois que c'est peut-être là qu'il y aurait quelque chose à réinventer, en fait. C'est-à-dire comment avoir une littérature qui soit nouvelle en termes de SF. Ce matin, je ne sais pas, aucun de vous n'était là, je crois, sur la table ronde jury, mais on avait un petit peu évoqué ça. C'est que le problème de la forme et du fond, c'est-à-dire que ce qui peut être à un moment donné à aller vers une nouvelle modernité, c'est peut-être l'approche littéraire, en fait, qui peut faire basculer vers une nouvelle fiction, en fait. Voilà.
Dicam, d'accord? Oui, je suis avec Jacques.
Je suis entièrement d'accord. Surtout que maintenant, on se rend compte que les scientifiques s'inspirent des écrivains de science-fiction pour mener leurs travaux. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont sorties dans les années 70-80 de la science-fiction et qui sont maintenant envisagées de façon très sérieuse. Alors, même si ce sont des hypothèses qui sont travaillées, hein, on n'y croit pas, on travaille sur une hypothèse, mais qui sont envisagées de façon sérieuse. Donc maintenant, en tant qu'écrivain, à part l'approche littéraire ou l'approche plus humaine, la réflexion plus intérieure sur les conséquences de certaines idées. Les idées, c'est vrai que c'est difficile d'aller délirer.
Oui. Pourtant, il me semble que tout n'a pas encore été découvert.
Voilà. Oui. Il nous reste un champ d'investigation.
Seigneur, non. Oui, c'est ça, le champ d'investigation, il est là. C'est qu'est-ce que l'humain, en fait ? Qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce qu'on est censé devenir et ce vers quoi on peut tendre, en fait, en tant qu'humain, qu'humanité la condition humaine, sur tout ce qui est les histoires de violence. Pourquoi l'homme est-il si violent, agressif, etc. Pourquoi c'est peut-être sur ce plan-là que la science-fiction a quelque chose à apporter, en fait. Beaucoup plus que sur les univers parallèles ou les univers virtuels qui, finalement, deviennent du domaine des recherches scientifiques aujourd'hui. Bon, ce qui n'empêche qu'il y a moyen de faire des histoires extraordinaires à partir de ça. Hein,
mais, je vais y revenir. Voilà. Johan, non ?
Oui, oui. Non, bon, ça m'évoquait Deleuze qui parlait de l'invention des concepts en mathématiques et qui trouvait, si je raccourcis un petit peu, un rapprochement très, 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 très fort entre l'artiste, le concepteur, d'idées et le mathématicien. Et que, on disait découvrir un concept, créer un concept, c'était un acte de création à peu près comme l'acte artistique aussi. Bon, voilà, ça m'évoquait ça, juste.
Alors, je vais en profiter pour rebondir. On ne s'imagine pas à quel point les scènes sur lesquelles se déroulent les tables rondes sont des genres de trampolines. Tout le monde rebondit sur ce que vient de dire celui d'avant, donc je vais moi-même sauter, rebondir sur ce qu'avait dit Jacques Barbary tout à l'heure. En tant qu'auteur, et on peut imaginer que la même question se pose pour les auteurs de bande dessinée ou pour les cinéastes, les auteurs de science-fiction, dans 99 fois sur 100, vont travailler sur des univers inventés. Ça arrive, hein, mais enfin, c'est assez rare que ça se passe dans notre univers quotidien. Il y a toujours quelque chose en plus. Ces univers inventés, quand vous décidez de les utiliser dans telle ou telle œuvre de fiction, je pense que vous les construisez de manière rationnelle. Est-ce qu'il y a un moment où on passe de cette rationalité éventuellement extrapolatrice ou tirée de ce que vous avez pu observer autour de vous, est-ce qu'il y a un moment où on passe de ça à, après un petit coup de délire ou un gros coup de délire, à quelque chose qui nous fait sortir du réel, passer à une étape parallèle, je dirais, effectivement. Et est-ce que ça vous arrive ? Et si ça vous arrive, ça prend quelle forme ? Et ça vous vient d'où ?
Si je peux me permettre, merci. Pour le cas précis de Spirou et Fantasio, qui est une BD qui peut paraître un petit peu surfaite comme ça, mais malgré tout, qui est quand même d'actualité, je travaille avec Fabien Vellman, qui est scénariste aussi, et on travaille beaucoup les idées en ping-pong aussi. Donc on a imaginé par exemple un album où Zorglub, qui est un des grands scientifiques un peu zinzin de Spirou, se fait engager par un multimilliardaire pour concevoir une base sur la Lune qui soit un centre de vacances pour milliardaires. Donc on est parti sur cette idée-là et on s'est dit « Ah, comment ça pourrait être ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme activité ?» Donc on a imaginé une espèce de parc d'attractions où justement l'attraction terrestre a plus lieu. Par exemple, on imaginait un terrain de basket où il y aurait des matchs de basket, mais du coup tout serait un peu au ralenti. Ou alors il y aurait une piscine, mais quand on saute du plongeoir, on arrive dans la flotte comme ça, et puis ça fait des grosses bulles énormes qui vont. Ça va. Là, à ce moment-là, on part à imaginer ce que ça pourrait être en fonction de ce qu'on sait ou qu'on croit imaginer de la pesanteur et des conditions là-bas, quoi.
Mais là, ce qui est étonnant dans l'exemple que tu viens de donner, c'est que on voit des situations délirantes, mais qui viennent simplement d'un raisonnement scientifique poussé un peu plus loin, parce qu'effectivement, la Lune, il n'y a pas d'air et la pesanteur est plus faible. Donc, cette considération parfaitement rationnelle et scientifique, paf, nous mène à des situations délirantes, effectivement. Jean-Laurent.
Je vais continuer à rebondir, donc sur. Rebondissons tous. Pour ma part, moi, c'est avant tout un récit historique, Royaume de vent et de colère, mais souvent, on dit c'est aussi un récit uchronique. Mais l'uchronique est très à la mode en ce moment, donc. Pour le repréciser, c'est le fameux « et si » historique. C'est par exemple « et si les Allemands avaient gagné la guerre ». Est-ce que ce n'est pas déjà une forme de délire très fort de se dire « j'ai une situation historique, allez, je vais complètement inverser. Et si les Romains avaient eu la poudre, qu'est-ce que ça aurait changé dans l'histoire ?» Et finalement, on a une entrée qui est à la base comme relativement délirante. On se dit « Mais du coup, la démarche, elle est extrêmement sérieuse et ça a des implications sur ce qu'aurait été la société, ce qu'aurait été le... Donc là aussi, il y a une nécessité de recherche technique et scientifique sur une idée au départ assez folle, de se dire je vais réécrire l'histoire n'importe comment, en faisant un point de divergence, et là tout d'un coup je me retrouve, l'idée peut être drôle, ça peut aller très loin dans l'énonciation de quelque chose, et puis je vais avoir besoin d'énormément de connaissances techniques, historiques, scientifiques.
L'ICAM ou Jacques sur cette question que je me suis permis de vous poser.
Je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit.
Rebondissons.
Effectivement, le fameux « et si », c'est le principe même de la démarche quand on écrit. Et si, effectivement, si les Romains avaient eu la poudre, et si une intelligence artificielle était découverte et que finalement personne ne se rendait compte que c'était une intelligence artificielle parce qu'elle était tellement, différente, personne ne pourrait la comprendre et pourrait comprendre qu'elle est intelligente, voilà, pour parler d'Azoulon. C'est effectivement ce fameux « et si », ça nous permet de sortir de tout et de tout réenvisager sous un autre angle. Et parfois, si en plus on peut s'amuser dans ce « et si », c'est encore mieux.
Jacques, on poursuit l'enquête.
Pour répondre à ce que tu disais, donc, est-ce que la création, le fait de créer un univers complètement inventé, non pas de partir de l'univers connu réel, c'est justement ce qui permet de se laisser toutes les possibilités, de pouvoir biaiser tout, de pouvoir tout un petit peu gauchir ce qu'est la réalité. Là, on a la possibilité de le faire, on peut tout se permettre, puisqu'on crée entièrement un univers parallèle ou virtuel ou je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est une question de facilité aussi. Ça permet, c'est le principe de la SF. De toute façon, ça permet tous les champs des possibles, quoi. Et le fait de créer un univers entièrement, c'est ce qui permet de faire ce qu'on veut finalement, quoi. Ça laisse, on est le démiurge de, on est les normes, on est un peu le maître du monde, c'est ça, oui.
Je vais continuer mon enquête auprès d'un autre auteur qui s'appelle Jean-Jacques Régnier, en l'occurrence c'est moi. Tout d'un coup, je viens de penser à une nouvelle que j'avais écrite il y a quelques années, qui se passait dans un vaisseau spatial commercial, un genre de 30 tonnes semi-remorque, mais beaucoup plus gros, qui faisait des navettes entre la Lune et un des satellites de Jupiter. Et c'était un petit peu le monologue intérieur du pilote. Pas tout à fait monologue parce qu'il communiquait avec son intelligence artificielle et qui s'emmerdait à faire la navette en transportant Dieu sait quoi. C'était en fait entre la Lune et Callisto, des satellites de Jupiter. Et c'était une histoire qui était simplement une extrapolation de ce que pouvait être la vie d'un chauffeur routier interplanétaire, voilà. Et c'était l'effet de contraste qui m'avait amusé. Et puis, d'où m'est venu, je ne sais quoi, je ne sais pourquoi, je ne sais d'où, la présence d'un espèce d'être qui tapait à la fenêtre du hublot et qui était un espèce d'animal vivant dans l'espace, se nourrissant de l'hydrogène interplanétaire, c'est-à-dire une molécule tous les 25 km², mais ça lui suffisait, parce qu'il allait très vite. Et là, le délire était là. Et je vous jure, j'avais rien fumé, j'avais rien bu. Je ne sais pas d'où cette idée complètement délirante m'est venue. Et ça a permis à cette nouvelle d'être pas simplement anecdotique, mais d'en rajouter un petit plus. Mais parfois, je me réveille en disant, mais qu'est-ce qui m'a pris ? C'est, je ne sais pas.
Je pense qu'on doit souvent se dire, en tant qu'auteur, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Je pense qu'on se dit tous à un moment donné, quand on écrit, mais qu'est-ce qui m'a pris ?
Oui, on est content d'ailleurs, mais bon, oui, on ne sait pas d'où ça vient.
Quand on se surprend, quand on arrive à sortir vraiment quelque chose qui, nous-mêmes, on n'avait pas prévu et qui... alors, ce n'est pas du délire, parce qu'on est quand même dans un contexte assez... Mais il y a un moment où on peut effectivement lâcher encore plus, et il y a cette petite chose qui est complètement délirante, et là on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui m'a pris ? Et en même temps, on est super content, et je pense que c'est ce petit plus qui fait parfois la différence, et qui peut éclairer un univers d'une autre façon.
Oui, pour revenir sur le principe même d'écrire des textes délirants, moi je sais que lorsque je lis un texte, j'ai envie d'être un peu déstabilisé, un peu bousculé, un peu surpris en fait. Et lorsque je les écris, je me mets dans la même situation. Je me dis que j'ai envie de déstabiliser un peu, de secouer un peu le lecteur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir personnellement aussi écrire des textes un peu délirants. Mais c'est parce que Enfin, j'imagine que le lecteur éprouvera un certain plaisir à être bousculé, à être surpris. Alors, c'est pas toujours le cas, malheureusement, mais bon, moi, en tant que lecteur, c'est ce qui se passe. J'ai besoin d'être un peu secoué, me dire ouf, putain, là, ça décoiffe. Hein. Voilà, et c'est vrai. Alors là, on revient à la discussion du début, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'auteurs quand même qui sont prêts à déstabiliser le lecteur, quoi, vraiment lui filer un bon coup de latte, quoi. Alors, ce qui se passait fréquemment dans les années, beaucoup plus fréquemment dans les années 60-70, avec tous les auteurs précités. Moi, je sais que ça me manque un petit peu dans la production actuelle.
Est-ce que ça a un rapport avec les fluctuations de la consommation d'hallucinogènes parmi les...
Possible.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, je ne vous poserai pas la question personnellement.
Oui, mais peut-être qu'aussi, dans les années 60-70, on était en train d'inventer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, culturellement, depuis plusieurs années, les générations sont habituées à avoir accès à la littérature vraiment très très large, à cinéma, à séries, vulgariser les choses. L'accès est beaucoup plus rapide aussi, donc c'est peut-être que les gens sont un peu plus blasés, entre guillemets, de ce qu'ils peuvent voir.
Est-ce que ça ne tiendrait pas aussi un peu plus sérieusement par rapport à ce que j'ai dit avant, au fait que, bizarrement, il y a une espèce de retour de la hard science, je trouve, et au cinéma, et dans l'écriture, qui, d'une certaine manière, bride l'éventuel délire qui pourrait se promener dans la tête des auteurs ou des cinéastes.
Oui.
oui, très bien. J'aime bien, c'est les questions qui durent 10 minutes et la réponse est « Oh, peut-être pas. » Peut-être pas, non. Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il s'est fait mal.
Oui, ça rejoint ce
qu'il est tombé, d'accord. Ah. Arrête de délirer.
C'est le micro qui délire.
Oui, pardon, reprenons.
Non, oui, effectivement, c'est ce que je disais un peu au début de la table ronde. On arrive à un tel niveau de connaissance qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que les scientifiques qui peuvent se déplacer sur certains terrains. Et puis, on arrive à un moment dans l'histoire où beaucoup de choses qui étaient encore que hypothétiques, que des réflexions, sont en train d'être mises en application au niveau génétique, au niveau informatique, au niveau physique. Et du coup, c'est des terrains qui sont un peu, j'allais dire minés, c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est des terrains qu'on ressent comme minés en tant qu'auteur. Parce qu'on se dit, bon, il va toujours avoir quelqu'un qui va me dire, ouais, mais là, c'est pas plausible. Ça, alors, on est sur le délire, mais là, ça casse le délire, vous voyez. D'avoir toujours un avis scientifique, alors qu'on écrit de la littérature.
Oui, mais est-ce que le fait d'avoir une formation scientifique, précisément, ça bride pas certaines manières de l'imagination, parce qu'on sait qu'on s'avance sur des terrains qui sont tellement balisés qu'on peut plus déraper, quoi.
Et surtout en plus quand on a des collègues scientifiques.
En plus, oui. Mais enfin, qu'est-ce que t'as écrit ?
Qu'est-ce que c'est, tu délires ?
Oui.
Oui. Non, c'est effectivement. Pour moi, c'est l'un des principaux freins. Alors, effectivement, quand je parlais d'ardoise magique, il arrive un moment où on a quand même envie de le faire. J'avais quand même envie d'écrire de la science-fiction. Donc, du coup, j'ai écrit dans un domaine que je ne connais pas, l'informatique. J'ai parlé d'intelligence artificielle, alors que, normalement, je parle de biologie. Voilà. Alors, ça se rapproche, parce que l'intelligence artificielle, elle sera à la fois biologique et à la fois informatique. Enfin, il y aura plusieurs... ce sera une convergence de sciences.
Oui, d'accord.
Mais je ne me suis pas sentie d'aller dans le domaine de la génétique.
Jean-Laurent, pardon. Jacques, tu as un micro, là.
D'accord.
Oui, d'accord. Mais bon, c'est parce que sinon, on n'en a plus ici.
Oui, la hard science, quand elle est vraiment poussée dans ses limites, quand elle est très technique, très pointue, à moins de la recevoir comme un texte surréaliste, elle s'adresse quand même à un lecteur assez réduit, quoi, un lectorat assez réduit, parce que c'est... moi, je pense à Greg Egan, j'ai lu des bouquins de Greg Egan. Voilà, ouais. Par moment, j'avais l'impression de lire un texte surréaliste. Oui. Quoi. C'est totalement hallucinant. Quoi. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Hein, mais bon, si on veut vraiment essayer de décrypter les arcanes du texte, il faut être balèze. Quoi. C'est avoir un bagage technique assez costaud. Quoi.
Alors, je pense que l'exemple de Greg Egan est particulièrement bien choisi parce qu'il en est effectivement... il est connu sur ses romans, mais aussi sur ses nouvelles, où il part... lui vraiment avec sur un délire scientifique, mais vraiment en se disant très pointu, il arrive à interroger notre réel. Il a des nouvelles qui partent, et si le voyage la téléportation existe, et que par exemple on a des mouvements de migration qui sont de planète en planète ou même à travers le temps, qu'est-ce que ça interroge? Ça s'interroge, aujourd'hui on le voit aujourd'hui, le déplacement de personnes qui fuient des guerres à travers les âges pour arriver à notre époque actuelle. Donc finalement on en revient, c'est très scientifique, c'est très technique, et finalement c'est délirant parce qu'on se dit ça n'arrive pas, enfin ça n'est pas possible, et pourtant ça interroge bien notre réel, notre situation réelle. Et il y a aussi une autre question que je voudrais soulever: est-ce que finalement on n'est pas passé d'un délire exubérant à un délire plus cérébral sur cet exemple-là? Par exemple, je pense à Peter Watts, qui est un autre auteur de Hard Science, qui a écrit récemment Écopraxie. Et lui, avec le... Alors, c'est vraiment de la Hard Science très documentée. Et dans son dernier Écopraxie, il l'a dit presque en rigolant dans ses interviews. Ben, mon postulat de base, c'est de dire on a trouvé une preuve scientifique irréfutable que Dieu existe. Et à partir de là, son récit de Hard Science se bâtit. Comment on rebâtit une science en prouvant quelque chose qui est la base, enfin voilà. Donc il y a quand même un délire scientifique qui est à la base, mais qui n'est pas exubérant, il est intellectuel. Et tout d'un coup, il y a peut-être ça aussi. Aujourd'hui, le délire, il est plus fantasque, il est peut-être sur peut-être un peu trop cérébral, moins joyeux et débridé.
Jacques Barbéry. Tu voulais dire quelque chose? Oui.
Ça rejoignait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver une nouvelle façon de délirer, en fait. Et là, l'exemple de Watts, c'est tout à fait ça. C'est extrême, mais c'est pas du tout calqué sur ce qui se faisait de délirant dans les années 60-70. C'est une nouvelle approche, en fait, d'un certain délire possible par le biais de la SF. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, en fait.
Mais alors, est-ce que si le délire exubérant a progressivement quitté la SF, est-ce que ça n'expliquerait pas aussi pourquoi est-ce que c'est vrai qu'on pourrait peut-être éventuellement, ce dont je ne suis pas persuadé d'ailleurs, le retrouver dans la fantaisie? Est-ce que c'est la fantaisie qui profite de cette migration, si j'ose dire, du délire? Mais j'en suis pas vraiment persuadé, parce que j'en lis pas énormément, parce que j'en lis me donne à penser que c'est pas non plus beaucoup plus délirant que ce que peut être la science-fiction dans son coin. Mais vous-même, qu'en pensez-vous?
Alors, je n'écris pas de fantasy, j'en lis très peu, mais ce que j'ai pu en lire, j'ai l'impression effectivement que le délire des années 70 qui est autorisé en science-fiction, maintenant on le retrouve quand même plus en fantasy. Même maintenant la fantasy essaye de se renouveler et retourne plus vers des mythologies antiques. on a quand même eu des choses qui pouvaient ressembler un peu, qui étaient un peu psychédéliques, on va employer le terme, en fantasy, encore récemment, et qui, en science-fiction, le psychédélique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, hein, peut-être chez Jacques, quelquefois. Non, depuis, Mais ça manque un peu. Enfin, en science-fiction, on est quand même dans un délire, effectivement, peut-être plus cérébral. Et puis on s'autorise. Il y a tellement de questions à poser sur la société aussi en science-fiction que, oui. Bon, effectivement, il y a beaucoup de travail, donc il faut bien le faire aussi. Peut-être, hein.
Johan,
j'ai l'impression que la fantasy, comme une certaine forme de science-fiction. Moins à la mode aujourd'hui, j'en sais rien. De différent par rapport à la hard science actuelle, c'est l'aspect poétique et la métaphore beaucoup plus présent, plus prononcé. Et peut-être que c'est ça qui manque actuellement pour faire délirer un petit peu plus la science-fiction ou la hard science, c'est le côté poétique.
Oui, oui, parce que je me disais que. Ce que tu disais à propos de la science-fiction contemporaine, c'est un peu le propre de la science-fiction dans son essence même depuis toujours, hein. La rationalité, pousser une idée ou deux idées très loin, et ça peut éventuellement tomber. De toute façon, ça tombe dans les choses qui n'existent pas. Donc, déjà, on peut plus ou moins les qualifier de délirantes. Mais le délire fou, le délire extraverti, ça arrive relativement rarement en science-fiction aussi. Hein, même si on a cité quelques exemples tout à l'heure, c'est pas la majorité des cas. Si, dit Jacques Barbéry.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des délires qui ne sont pas forcément techniques. Chez Dick, par exemple, c'est un délire mental. Donc, voilà. Là,
le délire paranoïaque.
Et là, on peut retrouver alors peut-être plus d'émotions, de poésie ou de parce qu'on est plus sur l'humain, on est plus sur un rapport de l'homme à l'univers, oui. Mais sans passer forcément par un média technique, technologique. Et voilà, cette SF-là peut-être aussi manque un petit peu aujourd'hui en fait, une SF un petit peu à la Philip K. Dick, mais pas forcément pour les notions d'illusion en réalité, mais en laissant un petit peu de côté justement tout ce qui est trop technologique, quoi. Si c'est aujourd'hui le présent dans lequel on vit, certes, mais bon. Alors effectivement, la fantaisie c'est aussi une façon de se libérer complètement des contraintes technologiques. Alors là, pour le coup, bon, alors après, est-ce que ça permet aujourd'hui d'obtenir des textes? Je ne suis pas assez connaisseur en la matière, mais...
Moi non plus, je connais assez peu la fantaisie. Mais effectivement, en fantaisie, on peut s'interroger sur l'humain. En science-fiction, on s'interroge aussi sur l'humain, mais ça paraît peut-être plus simple en fantasy, par le biais de la métaphore, oui. En utilisant parfois des elfes ou des nains. Qu'en science-fiction, on s'interroge quand même du rapport, de l'humain par rapport à une technologie ou par rapport à des choses qui restent. On cherche l'humain dans l'extrême, dans des situations qui sont aux confins de ce qu'on peut vivre. Alors que dans la fantasy, on est sur... Enfin, je connais peu la fantasy, donc là aussi, moi, je suis aux confins de ce que je peux dire. Mais on reste quand même sur des questionnements assez initiatiques qui sont plus fondamentaux, il me semble.
Oui, mais oui, en même temps, si... je veux dire, considérer des elfes ou la magie comme étant un délire en fantasy, ça tient pas, parce que la fantaisie, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus de fantaisie. Donc, je veux dire, c'est la norme. Et c'est tellement la norme que c'est plus du tout délirant, quoi, d'une certaine manière.
Oui, il faut réinventer la fantaisie aussi.
Ben oui.
Mais c'est peut-être le cas, d'ailleurs. Moi, je ne connais pas toutes les productions récentes dans le domaine, mais il y a peut-être, je ne sais pas si peut-être toi, tu es plus...
C'est le mieux placé pour l'instant, oui. Pour en parler. À la fois comme auteur et comme libraire en plus.
Ben, je crois que la fantaisie, malheureusement, peut-être reproduit pas mal de schémas et a du mal, pour le coup, elle aussi, de se renouveler. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui apparaissent. Je pense qu'il y a des choses qui sont émergentes et intéressantes. Mais là aussi, on n'est pas sur un territoire, me semble-t-il, hein, je le mets en point de vue de lecteur, où ce soit... encore un gros renouveau. Après, là, c'est plus une remarque globale, mais j'entends parler depuis le début, voilà, de la comparaison années 60-70 et d'aujourd'hui. Là, c'était beaucoup plus drôle dans les années 60-70. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est chiant et sérieux. Ou délire plus.
Sérieux, parfois.
C'est triste un peu, non?
Ben oui, je sais pas, mais on va pas non plus jouer les anciens combattants en disant, ouais, de notre temps, c'était mieux. Hein. Cela dit, moi, je connais pas mal de gens qui, pour des raisons diverses, ont une culture de science-fiction qui remonte précisément aux années 60 et 70. Et qui en parlent comme si ils étaient nés dedans, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils sont nés bien après. Mais bon, alors, je sais pas, est-ce qu'on va considérer que l'époque classique de la science-fiction, c'est pas les années 30 et 40 comme on l'a cru jusqu'à maintenant, mais c'était les années 60 et 70 où il y a effectivement une éclosion de talents nouveaux, de formes nouvelles, d'idées nouvelles, dont effectivement pas mal étaient délirantes. Je ne sais pas, mais peut-être que chaque époque voit le classicisme de 40 ans avant. C'est une question de génération, je ne sais pas. Des commentaires là-dessus?
Oui, non, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'était une période où tout, enfin pas tout, mais presque tout était à faire encore, je veux dire, et puis c'était la contre-culture, etc. Il y avait, bon, voilà, c'était une époque très particulière où ça pouvait partir dans tous les sens, quoi. Aujourd'hui, il y a aussi des contraintes commerciales, en fait, beaucoup plus, je présume, qu'à l'époque, qui des fois orientent quand même un petit peu des circuits de publication vers des choses un petit peu plus stabilisé. Mais bon, après, je rejoins ce que tu dis. Il ne faut pas dire non plus qu'aujourd'hui...
Non, mais c'est...
Alors, par contre, aujourd'hui, on ne rigole plus et pas du tout.
Non, mais tu as tout à fait raison.
Pas du tout, quand même. Non.
Tu as
on se fait
raison.
Encore la gueule. Mais...
Tu as tout à fait raison de souligner ce point-là. C'est vrai que c'était une époque où la moindre histoire d'un martien se vendait à 40 000 exemplaires. Je veux dire, on rêve, hein, parce que ce n'est absolument plus du tout le cas. Et effectivement, ça peut ouvrir le champ du possible, je ne sais pas, pour les auteurs. Bien, assez parlé pour nous. Et assez déliré pour nous, à vous de délirer maintenant, soit par des questions, soit par des critiques, soit par des remarques. Il y a le micro vous arrive à vous, puis à vous. On dit bien puis à vous. Ah ben non, alors du coup, j'ai raté mon coup. Ah non, ça va, il arrive. Puis madame. Oui.
Merci, bonjour. Moi, j'ai plusieurs sujets. Là, vous venez de parler de l'histoire de Martien. Il y en a une qui est en train de se vendre à pas mal d'exemplaires, qui a même fait un film, qui est en train de passer.
Pardon, excusez-moi, j'ai
parlé d'histoire de Martien. Il y a une histoire de Martien là qui est,
oui,
est en train d'être.
Ah, c'est pas une histoire de Martien, c'est si, une histoire d'un homme fait, sur Mars.
Oui, bon, The Martian en anglais, peu importe. Autre chose, on parle de fantasy. Alors, je vais vous citer un exemple de nouvelle fantasy complètement délirante avec plusieurs types de magie, mais sans elfes, sans trolls, sans orques, sans tout ce bestiaire là. C'est le cycle d'Alamander d'Alexis Flamand. Et c'est vraiment décapant, quoi. C'est pas. C'est gore, c'est humoristique, il y a des scénarios, c'est vraiment fantastique. Et une dernière chose, j'ai l'impression que vous tirez des conclusions générales à partir d'échantillons. Parce que chacun de vous n'a lu qu'une partie infime de ce qui existe en science-fiction, en fantasy, en tout ça.
Comment pouvez-vous dire une chose pareille, monsieur ?
Voilà.
Mais qui êtes-vous ?
Mais c'est notre cas à
tous,
moi.
Taisez-vous !
Voilà. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il y a sûrement des auteurs qui traitent de ce que vous vous plaignez ou de ne pas trouver, quoi. C'est seulement, on ne les connaît pas. En plus, on ne connaît que la SF française et éventuellement anglo-saxonne. On ne connaît pas du tout les autres, celles des autres pays.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà.
C'est vrai. Des remarques, des remarques.
Excusez-moi, pour finir sur le délire, une série complètement délirante, c'est les Monty Python dans l'espace. C'est Hyperdrive. C'est une série de la BBC, c'est très court. C'est vraiment des scénarios de SF, chacun, sauf que c'est traité sur, humoristiquement à la manière des Monty Python.
À la Monty Python.
Voilà.
Des réactions.
Juste pour rebondir sur Délire en Fantasy, il y a une série qui est sortie maintenant il y a un certain temps et qui a été rééditée, qui s'appelle Féerie pour les ténèbres de Jérôme Noirez.
Ah oui.
Où l'univers fantasy se retrouve un peu corrompu par la réalité et c'est le réel qui devient du délire. Et c'est vraiment très très bien.
Je crois qu'il y avait une question là ici.
Oui. Oui. En fait, vous parlez beaucoup du délire sur le passé où on avait des réflexions sur comment pourrait être l'avenir ou d'autres. On essaie de se projeter dans le temps. Mais est-ce que maintenant, on ne va pas aussi chercher le délire dans l'espace ou dans d'autres cultures? Par exemple, quand je parle de délire, je pense instantanément à des publicités japonaises. Où on voit des choses qui nous paraissent tellement délirantes parce qu'elles sont, même si, alors je suis pas non plus natif de la culture, je sais pas comment ça a évolué à ce niveau-là, mais il y a des choses qui ont évolué dans d'autres cultures qui sont complètement différentes de la nôtre. Et quand on a le regard, justement, on va les regarder dans les autres cultures, ce qui nous apparaît peut nous paraître complètement délirant. Et est-ce que quelque part, on n'irait pas aussi chercher, puiser notre délire dans ces autres cultures actuelles et non plus essayer de se transcender le temps ou l'espace, enfin, le temps.
Des réactions chez vous ?
Oui, on aurait un délire plus horizontal, en fait, qui s'inspire du présent, de ce qu'on peut découvrir maintenant des autres cultures, plus qu'un délire qui est prospectif, qui va vers l'avenir ou vers... Oui, certainement.
Oui, non, ça c'est très intéressant, mais c'est la réalité en fait. C'est du domaine de la réalité, quoi. Donc effectivement, on peut s'en inspirer pour, à partir de là, écrire d'autres trucs, mais c'est la réalité. La réalité est délirante, et ça je suis entièrement d'accord. Hein. Si on regarde autour de soi, alors là, on a tout ce qu'il faut. En fait, des fois, on se dit même comment on pourrait être plus délirant que certaines choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, ça c'est sûr. Enfin, qui sont toujours passées dans le monde d'ailleurs.
Oui, je pense aux villes nouvelles. Construite sur l'eau à Dubaï, c'est des illustrations de SF d'il y a 15 ans. Hein. C'est très étonnant parce que là,
oui, Jules Verne n'aurait pas osé.
Ah non, Jules Verne n'aurait pas osé. C'est trop délirant en l'occurrence. Mais en fait, ça existe tout à fait. En passant sur bien d'autres problèmes soulevés par cette affaire-là, mais Madame.
Oui, alors je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au niveau du langage, donc de la littérature. Si vous prenez George Orwell. Vraiment une grande partie de son génie, c'est quand même d'avoir compris que les rapports intimes entre la langue et une société future qu'il imaginait. Et il me semble qu'à un certain moment, je me souviens d'un livre qui s'appelait « Autobiographie d'une machine Xistec ». Et le langage était extraordinaire. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que par lui-même, un langage poétique... il est porteur d'avenir, il est l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on opprime les poètes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que dans leur inspiration, parce que moi, j'ai le mot délire, ils sont un peu visionnaires. Ils restent encore un peu visionnaires. Et je pense que George Orwell était visionnaire, que Joyce, par exemple, qui a inventé un langage, était visionnaire. Et donc, finalement, si on voit la science-fiction avec des factures hyper classiques, un commencement, un milieu, un début, une fin, nanana, le suspense, le plot point et tout le machin, et ben tout ça, c'est une limitation pour les auteurs et leur créativité. Voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, le titre que vous citez est de Raphaël Aloysius Laferty, qui est vraiment un auteur génial et à découvrir absolument, quoi. Très difficile à trouver, mais je vous conseille de jeter un œil.
Et très délirant.
Très délirant, oui, très délirant. Mais justement, avec une approche de la langue qui est très particulière. Tout à fait.
Autre question ? Oui, ici, devant.
Alors, je voulais parler encore de Philippe K. Dick et des auteurs qui le suivent. J'avais lu que Philippe K. Dick prenait plusieurs idées qui n'allaient pas ensemble et puis les mettait ensemble et puis tout d'un coup ça faisait un truc délirant. J'ai l'impression que, j'ai pas encore bien lu Barbery, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu la façon dont il construit ses histoires. Je pense à David Calvo aussi qui construit ses histoires comme ça et qui est actuel. J'imagine que si les auteurs professionnels s'emparent vraiment de cette méthode-là, on aura encore de très beaux jours pour ce genre de littérature de l'absurde et du délire. Et je sais pas, vraiment, il n'y en a pas d'autres des actuels à part Barbery, Calvo, qui vous viennent à l'esprit parce qu'on n'a cité que des anciens, mais il en existe, puisque là, j'en ai un en tête qui n'a pas été cité, donc il y en a bien d'autres. Quoi.
On aurait dû citer Calvo, effectivement, vous avez raison.
Pas d'autres ?
Non, mais parce que vous venez de l'en parler, mais c'est vrai. Il manquait à la liste, mais il en manque d'autres à la liste, évidemment. Il en manque d'autres à la liste. Pour répondre aussi d'une certaine manière à la question qui a été posée tout à l'heure, ni cette personne, ni nous-mêmes, nous pouvons tout lire ou avoir tout lu. Donc on se fait une idée moyenne en fonction des quelque chose qu'on a pu lire. Et on se fait aussi une idée moyenne des choses qu'on a lues dans le temps. Donc, est-ce que ça suffit comme échantillonnage pour tracer des tendances générales ? Je ne sais pas. On peut penser que oui, mais ce n'est pas non plus certain, effectivement. Oui.
Oui, pour répondre à la dernière question, il y en a certainement d'autres, hein, effectivement, on est limité par nos propres lectures et nos exemples. Peut-être, voilà, c'est plus une tendance, peut-être, qu'on essaie de souligner. Ça existe toujours, heureusement, hein, il y en aura toujours et ça va peut-être réapparaître. C'est plus peut-être une tendance un peu moins présente dans la science-fiction. Puisqu'on est dans le délire, à un moment on évoquait la fantasy, je voulais pas quitter cette table en parlant quand même de quelqu'un, d'un très grand auteur qui était Terry Pratchett, qui sur la fantasy, le délire, et qui interrogeait notre réel, se posait un peu là. Voilà.
Pratchett, effectivement. D'autres remarques et questions? Oui, il y a un bras qui se lève là-bas, sur ma droite, donc sur... il se relève, je crois que le micro arrive sur ses petits pieds.
Oui, bonjour. Est-ce que vous ne pensez pas que le délire peut être cherché dans d'autres formes de narration que le classique, le cinéma, les livres?
Vous avez une idée en tête?
Les jeux vidéo, par exemple.
Oui, effectivement.
On peut voir des formes de narration qui sont totalement différentes, qui permettent des expériences différentes aussi.
Oui, effectivement, j'ai pensé moi aux jeux vidéo quand on a évoqué ça tout à l'heure. Maintenant, je joue aussi pas mal. Je m'intéresse à ce qui se fait en jeux vidéo, non seulement par les gros studios, mais aussi par les studios indépendants, etc. Maintenant, l'écriture d'un scénario en jeu vidéo, c'est un peu comme l'écriture d'un scénario en cinéma, c'est qu'elle est très vite soumise à des contraintes de temps, de moyens, de réalisation, ce qui fait que quand on veut faire un jeu vidéo, en tout cas un jeu vidéo de grande ampleur, il y a très vite ces contraintes qui s'imposent et on taille un peu dedans et souvent on retombe un petit peu dans les schémas un peu préétablis. Il faut plus regarder du côté du jeu vidéo indépendant, des petits studios qui se montent à deux ou trois personnes et des gens vont essayer d'inventer un scénario, un gameplay, parce qu'il y a aussi la notion de jeu, il n'y a pas juste la notion d'histoire. Il faut que la personne qui va vivre l'histoire puisse la faire évoluer à travers un jeu, un gameplay et un aspect ludique. Et ça implique des règles. Or, le côté délirant veut justement un peu briser les règles, quoi. Mais cela dit, c'est une piste aussi intéressante. Moi, j'ai vu des choses très sympas là-dessus. Hein.
Alors oui, je pense que le jeu vidéo est ouvertement un domaine où le délire, et là où je te rejoins, plus sur les petits studios que sur les gros. Moi, j'ai sur un jeu, je crois qu'il avait été présenté d'ailleurs, je crois, Utopia, il y a quelques années avec le studio Dotnod, c'était Remember Me, où là, on est sur un délire de base qui était le Memory Remix, où on disait futur proche, on peut se connecter, les mémoires sont artificielles, on peut les hacker, changer le souvenir d'une personne et voilà, transformer sa vie. Ça posait plein de questions sur notre propre société. C'est est-ce que le souvenir est une donnée publique ou privée, et ainsi de suite. Et pour le coup, là, on rentre vraiment dans un délire, dans cet exemple-là, paranoïaque, mais vachement intéressant, qui interroge le réel et qui est vraiment une science-fiction qui rejoint notre réalité, pour le coup.
Sujet tout à fait d'actualité, effectivement, oui, tout à fait. On va peut-être envisager une dernière question ou une dernière remarque dans la salle. Le micro ne bouge plus. Non ? Eh bien, écoutez, on va donc peut-être en rester là. On va vous remercier de votre attention et à une autre table ronde.